Chapitre 3. La mort frappe à toutes les portes. Je le savais, mon neveu, je l'avais dit qu'il ne fallait point escompter ce jour-d'hui aller plus loin que Nontron. Et encore n'y parviendrons-nous qu'après le salut à nuit toute noire. La rue me rebattait les oreilles. Mon seigneur se ralentit, mon seigneur ne va pas se contenter d'une étape de 8 lieues. Eh, wish! La rue va toujours comme s'il avait le feu aux trousses, ce qui n'est point mauvaise chose, car avec lui, mon escorte ne s'assoupit point. Mais je savais que nous ne pourrions quitter Bourdeille avant le milieu du jour. J'avais trop à faire et à décider, et trop de seins à donner. J'aime Bourdeille, voyez-vous. Je sais que j'y pourrais être heureux si Dieu m'avait assigné non seulement de le posséder, mais d'y résider. Celui qui a un bien unique et modeste en profite pleinement. Celui qui a possessions vastes et nombreuses n'en jouit que par l'idée. Toujours le ciel balance ce dont il nous gratifie. Quand vous rentrerez en Périgord, faites-moi la bonne grâce de vous rendre à Bourdeille, Archambault, et voyez si l'on a bien réparé les toitures comme je l'ai commandé tout à l'heure, et puis la cheminée de ma chambre fumée. C'est grande chance que les Anglais l'aient épargnée. Vous avez vu Brantôme, que nous avons juste passé. Vous avez vu cette désolation qu'ils ont faite d'une ville autrefois si douce et si belle au bord de sa rivière. Le prince de Galles s'y est arrêté pour la nuit le 9 du mois d'août, à ce qui vient de m'être dit. Et ses courtillers et goujats, au matin, ont tout embrasé avant de repartir. Je réprouve fort cette façon qu'ils ont de tout détruire, ardoir, exilé ou ruiné, comme il semble qu'ils s'y adonnent de plus en plus. Qu'on s'égorge à la guerre entre gens d'armes, je le conçois. Si Dieu ne m'avait désigné pour l'Église et que j'ai eu à mener bannière au combat, je n'aurais point fait de quartier. Qu'on pille, passe encore. Il faut bien donner quelque agrément aux hommes dont on exige risque et fatigue. Mais chevaucher seulement pour réduire le peuple à misère, griller ses toits et ses moissons, l'exposer à famine et froidure, cela me donne du courroux. Je sais le dessein. De province ruinée, le roi ne peut plus tirer impôt, et c'est pour l'affaiblir qu'on détruit ainsi les biens de ses sujets. Mais cela ne vaut. Si l'Anglais prétend avoir droit sur la France, pourquoi la ravage-t-il ? Et pense-t-il, même s'il l'emporte par les traités après l'avoir emporté par les armes, pense-t-il, en agissant de la sorte, y être jamais toléré ? Il sème la haine. Sans doute, il prive d'argent le roi de France, mais il lui fournit des âmes qu'animent la colère et la vengeance. Trouver des seigneurs ici ou là pour faire allégeance par intérêt, oui, le roi Édouard en trouvera. Mais le peuple, désormais, lui opposera refus, car ce sont traitements inexpiables. Voyez déjà ce qui se produit. Les bonnes gens n'en veulent point au roi Jean de s'être fait battre. Ils le plaignent, ils l'appellent Jean le Brave ou Jean le Bon, alors qu'ils devraient l'appeler Jean le Sot, Jean le Buté, Jean l'Incapable. Et vous verrez qu'ils sauront se saigner pour payer sa rançon. Vous me demandez pourquoi je vous disais hier que la peste avait eu grave effet sur lui et sur le sort du royaume. Eh, mon neveu, pour quelques morts en mauvais ordre, des morts de femmes et d'abord de la sienne, Madame Bonne de Luxembourg, avant qu'il ne soit roi. Madame de Luxembourg fut enlevée par la peste en septembre de 1349. Elle devait être reine et eût été une bonne reine. Elle était, comme vous le savez, la fille du roi de Bohême, Jean l'Aveugle, qui avait si grand amour de la France qu'il disait que la cour de Paris était la seule où l'on pût vivre noblement. Un modèle de chevalerie, ce roi-là, mais un peu fou. Bien que n'y voyant goutte, il s'obstina de combattre à Crécy, et pour cela, il fit lier son cheval aux montures de deux de ses chevaliers qui l'encadraient de part et d'autre, et ils se ruèrent ainsi à la mêlée. On les trouva morts tous les trois, toujours liés. Le roi de Bohême portait 3 plumes d'autruche blanche au cimier de son home. Son noble trépas frappa si fort le jeune prince de Galles. Il allait alors sur ses 16 ans. C'était son premier combat, et il s'y conduisit bien, même si le roi Édouard estima politique d'exagérer un peu la part de son héritier dans cette affaire. Le prince de Galles, donc, fut si frappé qu'il pria son père de lui laisser porter dorénavant le même emblème que feu le roi aveugle. Et c'est pourquoi l'on voit les 3 plumes blanches surmonter à présent le home du prince. Mais le plus important en Madame Bonne, c'était son frère, Charles de Luxembourg, dont nous avions, le pape Clément VI et moi, favorisé l'élection à la couronne du Saint-Empire. Non que nous ne pensions avoir quelque embarras avec ce rusto madré comme un marchand. Oh, rien de son père, vous en jugerez bientôt. Mais comme nous prévoyons aussi que la France connaîtrait de piètres moments, c'était la renforcer que de faire son futur roi beau-frère de l'empereur. Morte la sœur, finie l'alliance. Les embarras, nous les avons eus avec sa bulle d'or. Mais d'appui à la France, il n'en a guère donné. Et c'est bien pourquoi je m'en vais à Metz. Le roi Jean, qui n'était encore alors que duc de Normandie, ne montra point un désespoir extrême de la mort de Madame Bonne. Il y avait peu d'entente entre eux et souvent des éclats. Bien qu'elle eût de la grâce et qu'il lui ait fait un enfant chaque année, 11 au total, depuis qu'on lui avait donné à comprendre qu'il était temps pour lui de se rapprocher de son épouse dans le lit, Monseigneur Jean, pour l'affection, inclinait plutôt du côté d'un sien cousin, de 8 ans son cadet et d'assez jolie tournure. Charles de la Cerda, qu'on appelait aussi Monsieur d'Espagne, parce qu'il appartenait à une branche évincée du trône de Castille. Aussitôt Madame Bonne mise en terre, ce fut en compagnie du beau Charles d'Espagne que le duc Jean se retira à Fontainebleau pour fuir la contagion. Oh, ce vice n'est pas rare, mon neveu. Je ne le comprends point et il m'en colère fort. Il est de ceux pour lesquels j'ai le moins d'indulgence, mais force est de reconnaître qu'il est répandu même chez les rois, auxquels il fait grand tort. Jugez-en par ce qu'il advint du roi Édouard II d'Angleterre, le père de l'actuel. Ce fut la sodomie qui lui a coûté, et le trône et la vie. Notre roi Jean n'est pas à ce point sodomite affiché, mais il en marque beaucoup de traits, et il les montra surtout dans sa passion funeste pour ce cousin d'Espagne au trop gracieux visage. Qu'y a-t-il, Brunet? Pourquoi s'arrête-t-on? Où sommes-nous? À Quinsac? Il n'est point prévu. Que veulent ces manants? Ah, une bénédiction. Qu'on n'arrête point mon cortège pour cela. Tu sais bien que je bénis en marchant. In nomine Patris, li sancti. Allez, bonnes gens, vous êtes bénis, allez en paix. S'il fallait s'arrêter chaque fois qu'on me demande une bénédiction, nous serions à Metz dans 6 mois. Donc, vous disais-je, en septembre de 1349, Madame Bonne meurt, laissant veuf l'héritier du trône. En octobre, ce fut le tour de la reine de Navarre, Madame Jeanne, qu'on appelait naguère Jeanne la Petite, la fille de Marguerite de Bourgogne, et peut-être ou peut-être pas, de Louis Hutin. Celle qu'on avait écartée de la succession de France en faisant peser sur elle la présomption de bâtardise. Eh oui, l'enfant de la tour de Nesle, emporté par la peste. Son trépas, à elle non plus, ne fut pas salué par de très longs sanglots. Elle était veuve depuis 6 ans de son cousin, Monseigneur Philippe d'Evreux, tué quelque part en Castille dans un combat contre les Maures. La couronne de Navarre leur avait été abandonnée par Philippe VI lors de son avènement pour prévenir les revendications qu'ils auraient pu émettre sur celle de France. Cela fit partie de toutes les tractations qui assurèrent le trône aux Valois. Je n'ai jamais approuvé cet arrangement navarrais qui n'était bon ni en droit ni en fait. Mais je n'avais pas encore mon mot à dire. Je venais tout juste d'être nommé évêque d'Auxerre. Et puis même, l'aurais-je dit, en droit cela ne tenait point. La Navarre venait de la mère de Louis Hutin. Si Jeanne la Petite n'était pas la fille de celui-ci, mais d'un quelconque écuyer, elle n'avait pas plus de titre sur la Navarre que sur la France. Donc, si on lui reconnaissait la couronne de l'une, on étayait ipso facto ses droits sur l'autre, pour elle et pour ses héritiers. On avouait un peu trop qu'on l'avait écartée du trône, non tellement pour sa présumée bâtardise, mais parce qu'elle était femme, et grâce à l'artifice d'une loi des mâles inventée. Quant aux raisons de fait, jamais le roi Philippe le Bel n'aurait consenti, pour quelque raison que ce fût, à amputer ainsi le royaume de ce qu'il y avait ajouté. On n'assure pas son trône en lui sciant un pied. Jeanne et Philippe de Navarre s'étaient tenus fort calmes, elle parce que la chemise de sa mère lui collait un peu trop à la peau, lui parce qu'il était comme son père, Louis d'Evreux, de nature digne et réfléchie. Ils semblaient contents avec leur riche comté normand et leur petit royaume pyrénéen. Les choses allaient changer avec leur fils Charles, jeune homme fort remuant pour ses 18 ans, qui jetait des regards pleins de vindicte sur le passé de sa famille, plein d'ambition sur son propre avenir. Si ma grand-mère n'avait pas été si chaude putain, si ma mère était née homme, je serais roi de France à présent. Je l'ai entendu dire cela de mes oreilles. Il convenait donc de ménager la Navarre qui, par sa situation au midi du royaume, prenait d'autant plus d'importance que les Anglais, à présent, tenaient toute l'Aquitaine. Alors, comme toujours en pareil cas, arrangeons un mariage. Le duc Jean se fut bien dispensé de contracter une nouvelle union, mais il était promis à être roi, et l'image royale voulait qu'il eût épouse à son côté, surtout dans son cas. Une épouse empêcherait qu'il parût marcher trop ouvertement au bras de Monsieur d'Espagne. D'autre part, comment mieux flatter le remuant Charles d'Évreux Navarre et comment mieux lui lier les mains qu'en choisissant la future reine de France parmi ses sœurs? La plus âgée, Blanche, avait 16 ans, une beauté et beaucoup de grâce d'esprit. Le projet fut fort avancé, les dispenses demandées au pape et le mariage quasiment annoncé, encore qu'on se demanda qui serait vivant la semaine suivante dans l'horrible période qu'on traversait. Car la mort continuait de frapper à toutes les portes. Au début de décembre, la peste enleva la reine de France elle-même, Madame Jeanne de Bourgogne, la boiteuse, la mauvaise reine. Pour celle-là, ce fut tout juste si la bienséance permit de contenir les cris de joie, et si le peuple ne se mit pas à danser dans les rues. Elle était haïe. Votre père a dû vous le dire. Elle volait le sceau de son mari pour faire jeter Jean en prison. Elle apprêtait des bains empoisonnés pour les autres qui lui déplaisaient. Il s'en fallut de peu qu'elle ne fît de la sorte périr un évêque. Le roi, parfois, la rouait à coups de torche. Mais il ne parvint pas à l'amender. Je me méfiais fort de cette reine-là. Sa nature soupçonneuse peuplait la cour d'ennemis imaginaires. Elle était coléreuse, menteuse, odieuse. Elle était criminelle. Sa mort parut un effet tardif de la justice céleste. D'ailleurs, aussitôt après, le fléau commença de régresser, comme si cette grande hécatombe venue de si loin n'avait eu d'autre but que d'atteindre enfin cette harpie. De tous les hommes de France, celui qui en éprouva le plus grand soulagement, ce fut le roi lui-même. Un mois moins un jour après, dans la froidure de janvier, il se remaria. Même veuve d'une femme unanimement détestée, c'était faire bien peu de cas des délais de convenance. Mais le pire n'était point dans la hâte. Avec qui convolait-il? Avec la fiancée de son fils, avec Blanche de Navarre, la jeunette dont il était tombé fou en la voyant paraître à la cour. Si complaisant qu'il soit pour la gaillardise, les Français n'aiment guère chez le souverain les égarements de cette sorte. Philippe VI avait 40 ans de plus que la beauté qu'il soufflait fort brutalement à son héritier, et il ne pouvait point invoquer, comme pour tant d'unions princières désassorties, l'intérêt supérieur des empires. Il en chassait une pierre de scandale dans sa couronne, cependant qu'il infligeait à son successeur la meurtrissure du ridicule. Mariage célébré à la sauvette du côté de Saint-Germain-en-Laye. Jean de Normandie, naturellement, n'y assistait pas. Il n'avait jamais eu grande affection pour son père qui, d'ailleurs, lui en rendait peu. Maintenant, il lui vouait de la haine. Et l'héritier, un mois plus tard, se remariait à son tour. Il avait hâte d'effacer l'outrage. Il fit l'enchanté de s'accommoder de Madame de Boulogne, veuve du duc de Bourgogne. Ce fut mon vénérable frère, le cardinal Guy de Boulogne, qui arrangea cette union pour l'avantage de sa famille et le sien propre. Madame de Boulogne était, du point de vue de la fortune, un fort bon parti, ce qui aurait dû assainir les affaires du prince, déjà dépensier comme personne, mais ne servit en fait qu'à l'encourager au gaspillage. La nouvelle duchesse de Normandie était plus âgée que sa belle-mère. Elles produisaient ensemble un étrange effet aux réceptions de cour, d'autant que, pour la tournure et le visage, la comparaison n'était guère à l'avantage de la bru. Le duc Jean en éprouvait dépit. Il s'était pris à croire qu'il aimait d'amour Madame Blanche de Navarre, qui lui avait été si vilainement enlevée, et il souffrait torture en la voyant auprès de son père, qui ne cessait de la mignoter en public de la plus sotte façon. Cela n'arrangea pas les nuits du duc Jean avec Madame de Boulogne, et le rejeta davantage vers Monsieur d'Espagne. La prodigalité lui servit de revanche. On eût dit qu'il se redonnait de l'honneur en dilapidant. D'ailleurs, après les mois de terreur et de malheur qu'on venait de traverser durant la peste, tout le monde dépensait follement, surtout à Paris. Autour de la cour, c'était démence. On prétendait que cette débauche de luxe procurait travail aux petites gens. Pourtant, on n'en voyait guère les faits dans les masures et les soupentes. Entre les princes endettés et le commun peuple miséreux, il y avait l'échelon où le profit fuyait, happé par de gros marchands comme les Marcel, qui font négoce de draps, soieries et autres denrées de parure, et se sont alors grassement enrichis. La mode devint extravagante, et le duc Jean, bien qu'il eût déjà 31 ans, arborait, en compagnie de Monsieur d'Espagne, des cottes dentelées si courtes qu'elles leur laissaient paraître les fesses. On riait d'eux lorsqu'ils étaient passés. Madame Blanche de Navarre avait été reine plus tôt que prévu. Elle fut régnante moins longtemps qu'escomptée. Philippe de Valois avait réchappé de la guerre et de la peste. Il ne résista pas à l'amour. Tant qu'il avait vécu auprès de son acariâtre boiteuse, il était resté bel homme, un peu gras, mais toujours solide et allant, maniant les armes, chevauchant vite, chassant longtemps. 6 mois de prouesse galante auprès de sa belle épousée eurent raison de lui. Il ne quittait son lit qu'avec l'idée d'y retourner. C'était obsession, c'était frénésie. Il réclamait de ses physiciens des préparations qui le fissent infatigable aux déduits. Quoi donc ? Il vous surprend que... Mais si, mon neveu, mais si. Bien que d'église, ou plutôt parce que d'église, il nous faut être instruits de ces choses, surtout quand elles touchent la personne des rois. Madame Blanche subissait, à la fois consentante, inquiète et flattée, cette passion qui lui était à tout moment prouvée. Le roi se glorifiait publiquement qu'elle fût plus vite lasse que lui. Bientôt, il maigrit. Il se désintéressait de gouverner. Chaque semaine le vieillissait d'une année. Il mourut le 22 août 1350 à 57 ans, dont 22 ans de règne. Sous des dehors splendides, ce souverain auquel je fus fidèle, il était le roi de France, n'est-ce pas, et je ne pouvais d'autre part pas oublier qu'il demanda pour moi le chapeau. Ce souverain avait été un très piteux capitaine et un financier désastreux. Il avait perdu Calais, il avait perdu l'Aquitaine, il laissait la Bretagne en révolte et maintes places du royaume incertaines ou ravagées. Par-dessus tout, il avait perdu le prestige. Ah si, tout de même, il avait acheté le Dauphiné. Nul ne peut être constamment catastrophique. C'est moi, il est bon que vous le sachiez, qui ai conclu l'affaire 2 ans avant Crécy. Le dauphin Humbert était endetté à ne plus savoir à qui emprunter pour rembourser qui. Je vous conterai la chose par le menu une autre fois, si elle vous intéresse, et comment je m'y pris, en faisant porter la couronne de dauphin par l'aîné fils de France, à faire entrer le Viennois dans le giron du royaume. Aussi puis-je dire, sans me vanter, que j'ai mieux servi la France que le roi Philippe VI, car lui n'a su que l'appetisser, alors que moi, j'ai réussi à l'agrandir. 6 ans déjà. 6 ans que le roi Philippe est mort et que Monseigneur le duc Jean est devenu le roi Jean II. Ce sont 6 ans qui ont passé si vite qu'on se croirait encore au début du règne. Est-ce parce que notre nouveau roi a fait assez peu de choses mémorables ou bien parce que plus l'on vieillit, plus le temps semble fuir rapidement? Quand on a 20 ans, chaque mois, chaque semaine, tout enrichi de nouveautés, paraissent de grande durée. Vous verrez, Archambault, quand vous aurez mon âge, si vous y parvenez, ce que je vous souhaite de tout mon cœur. On se retourne et l'on se dit « Comment ? Déjà une année passée ? Comment a-t-elle coulé si vite ?» Peut-être parce que l'on use beaucoup de moments à se souvenir, à revivre du temps vécu. Et voilà, le jour est tombé. Je savais que nous n'arriverions à Nontron qu'à la nuit noire. « Brunet ! Brunet ! Demain, il nous faudra partir avant l'aurore, car nous aurons longue étape. Donc, que l'on harnache en temps et que chacun soit pourvu de vivre, car nous n'aurons guère loisir de faire arrêt. Qui est parti vers Limoges pour annoncer ma venue ? Armand de Guillermy, c'est fort bien. Je dépêche ainsi mes bacheliers à tour de rôle pour veiller à mon logement et aux apprêts de ma réception, 1 jour ou 2 en avance, mais pas plus. Juste ce qu'il faut pour que les gens s'empressent, et pas assez pour que les plaignants du diocèse puissent accourir et m'accabler de leurs suppliques. Le cardinal ? Ah, nous n'avons su que la veille, hélas, il est déjà parti. Autrement, mon neveu, je serais un vrai tribunal ambulant. »